Alors, je vais commencer directement par le titre. J'ai pas prévu de transition particulière. Et le titre est assez simple. La foi. Je peux pas faire plus simple. On peut peut-être enlever l'article foi, mais on peut l'interpréter bizarrement. En liant ça à une multiplication, mais c'est sûr que la foi crée une multiplication de quelque chose dans nos vies et autour de nos vies aussi. Et j'aimerais aborder avec vous ce que peut apporter la foi. Et après, on verra une définition de la foi qui est un petit peu en marge de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Je vous préviens tout de suite, comme ça, c'est fait. Juste avant, une petite réflexion. J'ai un portable. Il m'appartient. D'accord? C'est mon portable. Jusque-là, ça va? Personne ne conteste. Pourquoi je ne l'ai pas volé? Je l'ai acheté. Je l'ai acquis par mes propres moyens. Moyen qui, entre autres, venait d'une entreprise qui m'a rémunéré pour que je puisse avoir suffisamment pour acquérir des choses. Donc, ce portable, il est à moi, c'est mon portable. Maintenant, mes poumons, ils m'appartiennent aussi. Par contre, je ne les ai pas acquis par un moyen financier. Je ne les ai pas achetés. J'en ai été équipé, j'allais dire gratuitement. D'accord? Mais c'est les miens. Le portable, je peux vous le donner. Ça deviendrait le vôtre. Il changerait de propriété. Mais les poumons, c'est un peu plus délicat quand même, hein. Surtout pour moi. Ce serait plus compliqué de donner certaines parties de mon corps, même si les greffes existent, mais certaines choses comme le cerveau, si moi je le laisse à quelqu'un, que ça devienne son cerveau, pour moi j'aurais un problème, quoi. Et donc déjà là, au niveau de l'appartenance, on sent une nuance. Ça m'appartient, mais en fait, je l'ai reçu. Voilà. Et nous savons que c'est Dieu qui nous donne la vie, qui nous donne ce corps. Et nous devons en prendre soin de ce corps et de cette vie que Dieu nous donne. Et nous disons facilement, mon corps, ma vie. Mais en fait, c'est comme si je l'ai en prêt jusqu'à ce que Dieu me donne un nouveau corps, glorieux. Mes enfants. Wow. Alors là, est-ce que c'est une appartenance? Là, c'est pas une possession. C'est pas des objets. Là aussi, c'est des gens qui nous sont confiés jusqu'à un certain âge, mais en même temps, ils ont leur propre vie, leur propre appartenance, leur propre choix. Et quelque part, on peut prendre soin d'eux, essayer de faire le meilleur pour eux, mais on n'est pas ni à leur place, ni leur supérieur, leur maître, etc. Nous sommes là pour les élever, c'est-à-dire les faire grandir, les lever vers, et si possible, vers Dieu, vers une vie de qualité. Donc déjà là, l'appartenance, c'est bizarre. Et mon pays, est-ce que la France m'appartient? Non. C'est plutôt moi qui suis citoyen de mon pays. C'est plutôt moi qui appartiens à mon pays quelque part. Et pourtant, dans tous les cas, on dit mon téléphone, mes poumons, mes enfants, mon pays et ma foi alors. C'est dans quelle rubrique ça, ma foi? Ce qui m'étonne dans les évangiles, c'est que lorsque des gens viennent vers Jésus réclamer une guérison ou demander une guérison ou prier pour une guérison, Jésus manifeste sa grâce, son amour, et derrière il rajoute « ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé ». Donc, il met bien une notion d'appartenance, ta foi, à des gens qui viennent vers Jésus pour obtenir quelque chose. Mais aux disciples, et c'est ça qui me choque parfois, souvent quand Jésus parle aux disciples, il leur dit quelque chose qui me semble un peu dur quand même. Ces disciples qui ont tout lâché, leur famille, leur travail, leur réputation aussi, leur statut social. Ces disciples qui ont tout lâché pour suivre Jésus. Jésus se tourne vers eux et leur dit « Gaillard de petite foi !» Pardon, c'est mis « Jean de petite foi ». Et parfois c'est traduit, et on peut aussi le traduire parfois comme « personnes qui n'ont pas la foi » ou « de peu de foi ». Ou de foi moindre, de foi maigre. Et ça me semble injuste. Des gens qui viennent chercher une bénédiction auprès de Jésus et qui après repartent, Jésus leur dit, ta foi, super, ça t'a sauvé. Et à ceux qui ont quasiment tout lâché pour suivre Jésus, parce qu'ils ont une espérance dans leur cœur, parce qu'ils ont compris que c'était le Messie, peut-être avec des attentes fausses sur le Messie, mais ils ont quand même abandonné leur vie. Jésus leur dit, hey, les gars de petite foi. Alors on va voir quatre passages où Jésus parle de cette petite foi. Et en contraste, ça va nous montrer ce qu'est censé faire une foi qui est grande. Une foi qui est agissante. Premier passage, dans Matthieu 6, 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain est jetée dans le four, ne vous habillera-t-il pas, à plus forte raison, Jean, de peu de foi? Jésus insiste, Dieu va s'occuper de vous. Parce qu'il s'occupe des choses qui sont encore plus petites, et voire plus éphémères et plus insignifiantes que vous. Et la première chose que Jésus relève, c'est cette absence de confiance en Dieu et en sa capacité à prendre soin de nous. Est-ce que je crois à ce Dieu qui désire profondément prendre soin de moi? Après, est-ce que je le laisse faire ou pas? Ça dépend. Hein, si je vais essayer un manicure pour qu'elle me coupe les pieds, les doigts de pied, pardon, les ongles, c'est mieux parce que je crois que je ne me laisserai pas faire. Je déteste ça. Donc, voilà, vous avez compris. Ce n'est pas le tout de croire en un Dieu qui veut s'occuper de nous, mais encore faut-il accepter qu'il le fasse et se laisser faire. Et des fois, Dieu s'occupe de nous d'une façon qui nous semble étonnante. Mais donc, dans ce Matthieu 6, 30, Dieu est en train de dire « Je veux m'occuper de vous ». Et la foi, c'est avoir cette confiance en un Dieu qui s'occupe de moi. Il ne me laissera pas tomber. Un peu après, Matthieu 8, 26, il leur dit, Pourquoi êtes-vous craintif, gens de petite foi ? Alors, s'étant levé, il reprit les vents, la mer, et il se fit un grand calme. Il y avait de quoi avoir peur quand même. Et lorsque Jésus dit « Pourquoi est-ce que vous avez peur ?» On peut se dire « Jésus, on est au milieu d'un lac, il y a une tempête, l'embarcation se remplit d'eau, on est en train de couler, et tu te demandes pourquoi est-ce qu'on est dans la crainte ?» Attends, Jésus, reviens sur terre. Enfin, au milieu du lac, quoi. Seigneur, tu vois pas ce qu'on est en train de vivre ? Et Jésus dit, genre de petite foi. Est-ce que je crois à un Dieu qui sait exactement ce que je suis en train de vivre et qui est au contrôle de toutes les situations et de toutes les circonstances ? Que ces situations ou ces circonstances s'arrêtent ou continuent, Dieu sait ce que je traverse. Et Dieu à la maîtrise de ce que je traverse. Moi, je suis peut-être en train de sombrer, mais Dieu n'est pas en train de sombrer. Et il a la maîtrise. Il sait jusqu'à quand je peux retenir ma respiration. Ce n'est pas la fausse situation la plus évidente pour mes poumons, on est d'accord. La foi, c'est aussi cette confiance que Dieu connaît mes circonstances, faciles et difficiles. Et qu'il en connaît aussi la limite. Et parfois, on est étonné de ce qu'avec Dieu, nous sommes capables de traverser, de supporter. Alors que si on nous l'avait dit, on aurait dit, oh non, non, ça je ne supporterai jamais. C'est dans ce sens-là que Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pas je peux faire tout et n'importe quoi. C'est pas que je suis tout puissant et que j'ai des possibilités inestimables. Si vous regardez le contexte, Paul dit, j'ai été lapidé. J'ai reçu les fouets 40 coups moins un. J'étais presque laissé pour mort 3 fois de suite. J'ai connu la famine, j'ai connu la disette. J'ai connu les intempéries, j'ai connu le froid, j'ai connu les naufrages. Et Paul dit, j'ai pu traverser tout ça. Je puis tout traverser. Je puis tout surmonter. J'ai pu tout franchir ces difficultés par celui qui m'a fortifié. Et la foi produit cela. Dieu maîtrise mes circonstances. Troisièmement, Matthieu 14. Vous avez vu, on progresse dans l'évangile de Matthieu, hein. Matthieu 14, 31, Jésus opère une guérison. Et aussitôt, Jésus étendant la main, le prit et lui dit, « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» La foi produit une assurance. La foi produit en moi une confiance. D'ailleurs, confiance et foi, c'est le même mot. Et le mot confiance, c'est en fait le mot que vous trouvez dans l'Ancien Testament pour parler de la foi. Le mot foi en tant que tel, que croyance, n'existe pas dans l'Ancien Testament. Il existe juste la notion de confiance. Et la foi, c'est avant tout cette confiance. Et donc, Jésus va lui dire, pourquoi as-tu douté ? Le doute n'est pas un péché. Tout comme être dans la crainte à cause des circonstances n'est pas un péché. Tout comme se poser la question, est-ce que Dieu va prendre soin de moi dans cette situation ? Ce n'est pas un péché. C'est simplement une réaction humaine dans laquelle l'ingrédient de la foi n'est pas présent. Et même en étant chrétien, nous pouvons nous poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire au milieu de ces circonstances ? Parce que moi, je ne les comprends pas. Et ce n'est pas péché que de se poser la question. C'est chercher ce que Dieu veut faire au milieu de ces circonstances. Mais il est important, si on veut avoir cette pensée qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'être en paix malgré les circonstances, malgré qu'on ne comprenne pas ce que Dieu est en train de faire, de garder cette foi qui n'est pas un doute sur Dieu, mais qui peut être un doute sur ce que moi où j'en suis vis-à-vis de Dieu. Voyez la nuance? Matthieu 16, on progresse dans l'évangile de Matthieu, verset 8. Mais Jésus, le sachant, dit: pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de petite foi, sur ce que vous n'avez pas pris du pain? Jésus venait de faire une multiplication des pains, il venait de dire une phrase assez vive par rapport aux pharisiens et l'enseignement des pharisiens en allusion avec le pain. Et les disciples disent: on aurait dû prendre plus de pain, ils nous reprochent de ne pas avoir pris plus de pain. Et Jésus dit: vous n'avez rien compris. Je ne parlais pas du pain que j'ai multiplié. Je parlais du pain qui est l'enseignement des pharisiens. Et Jésus va l'aider: vous raisonnez en vous-même. La foi me permet de comprendre des choses. La foi, ce n'est pas juste un parti pris où je zappe mon intelligence, court-circuit sur l'intelligence. Non, la foi va me permettre au contraire d'avoir une intelligence augmentée. Par la foi, je comprends que le monde a été créé par Dieu. Par la foi, je vais comprendre certaines paraboles, paraboles des pains. Je vais comprendre certaines paroles de Jésus. Et donc la foi est cette révélation qui me permet de comprendre davantage que si je n'avais pas la foi. La foi, c'est la meilleure façon de raisonner. Et j'aimerais dire qu'une foi sans raisonnement, c'est tout aussi dangereux qu'un raisonnement sans foi. Alors, par rapport à ça, regardons l'attitude de Jésus. On est d'accord que Jésus, c'est un modèle de foi. Donc, allons dans Romains 4, versets 19 à 21. Il est dit: n'étant pas faible dans la foi, donc on parle bien d'une personne qui a une foi forte, mature, qui n'est pas petite, n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps déjà amorti, âgé qu'il était d'environ 100 ans, ni à l'état de la mort du sein de Sarah. Donc vous avez compris, il est parlé d'Abraham. Il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Et étant pleinement persuadé de ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. Là, on voit que Abraham, dans sa foi, dans les quatre choses qu'on a dites sur petite foi, il est vraiment dans le contraire. Il est persuadé, il est dans l'assurance. Il n'a pas de doute sur Dieu. Il peut avoir des doutes sur lui-même, mais pas sur Dieu. Il ne regarde pas aux circonstances, l'état de son épouse et son état à lui aussi. Il sait que Dieu maîtrise les temps et les circonstances, même si ça fait longtemps. Il est âgé. 100 ans quand même. Il est dit que la foi vient le fortifier, si bien qu'il comprend la pensée de Dieu. La foi est liée à une compréhension. Ça ne lui explique pas pourquoi Dieu a attendu qu'il ait 100 ans. Alors, on peut se dire, au vu de tout cela, que la foi, c'est une question de quantité. Il y a des gens de peu de foi, et des gens de grande foi. Seulement, comme on l'a vu au début, on aurait pu dire que la quantité de foi, c'est lié aussi à notre engagement, quoi. Envers Dieu. J'ai la foi, je suis engagé avec Dieu. Or, on a vu que les disciples qui étaient engagés avec Jésus, Jésus leur dit, gens de petite foi, et des personnes qui viennent croiser le chemin de Jésus pour demander la guérison, dit, Jésus dit, ta foi est géniale, quoi. Ta foi t'a sauvé. Et par-dessus cela, les disciples vont dire dans Luc 17, verset 5, Seigneur, augmente-nous la foi, fais que notre foi augmente en taille. Et la réponse de Jésus, Luc 17, 6, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alors déjà, pour planter un arbre dans la mer, il n'est pas dit dans le fond de la mer, hein, c'est carrément dans l'eau, quoi. Il faut être fort, quoi. Alors, je sais qu'on fait maintenant des cultures hors sol. Ça peut être une solution. Mais là, c'est l'arbre lui-même qui va se déplacer, quoi. Et vous m'avez déjà entendu prêcher sur le fait que ce qui est important, ce n'est pas la taille du grain, c'est le fait que ce grain porte en lui la vie et que ce grain, avec le temps, va grandir, d'où la notion de prendre soin de lui, parce qu'avec la fidélité, ce grain grandira et donnera un arbre. Et ce qui est important, c'est que notre foi grandisse. Alors je ne remets pas ça en question, simplement allons plus loin, dans notre compréhension finalement de qu'est-ce que ma foi ? Ma foi. Dans Matthieu 17, on trouve un passage assez intéressant où les disciples sont confrontés à leurs limites. Pourtant, les disciples veulent chasser un démon et les disciples vont s'approcher de Jésus et vont lui dire pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser ce démon? Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Voilà un autre mot pour manque de foi. Vous manquez de foi. Même là, vous n'avez pas de foi du tout, les gars. Car en vérité, je vous le dis, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait de là. Et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors vous, dans votre traduction du second, il y a marqué cette sorte de démon. Sauf dans le texte original, vous regarderez dans le grec, le « de démon » n'existe pas. C'est dit, effectivement, dans Matthieu, « cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. » Il parle d'une sorte de quoi ? Il parle de la sorte de foi. Cette sorte de foi qui va permettre d'avoir des résultats, qui va permettre d'avoir l'autorité pour chasser ce démon, cette foi-là ne sort que par la prière et le jeûne. Parce que le démon, quel que soit son grade, il est vaincu à la croix. Ils ont été tous dépouillés. Et Jésus a pris autorité sur eux, pleinement. Il en est pleinement vainqueur. Et Jésus est beaucoup plus intéressé par votre foi que par votre capacité à chasser des démons. Et en fait, la Bible n'est pas un cours de démonologie. La Bible est un instrument pour nourrir ma foi. Et j'aime bien cette donc interprétation, cette sorte de foi ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, que par votre relation avec Dieu. Que par le fait que vous privilégiez Dieu à vos besoins légitimes, humains, le jeûne. Et là, on est dans une notion de foi assez intéressante. J'ai jusqu'à quelle heure? Ok. Là, vous avez pris un risque de répondre ça. Alors, on va mettre ça en suspens, là, à cet endroit-là. Hein. Vous le voyez, là, en suspens. Hein. Cette foi ne sort que par le jeûne et la prière. Voilà une clé pour grandir dans la foi. Et surtout, cette notion, prière, relation avec Dieu. Jeûne, j'abandonne mes propres intérêts, besoins, même légitimes, pour préférer la présence de Dieu. Donc ça, c'est là. C'est bon? Tout le monde le voit là? Ok. Donc on reviendra là un jour. Je dis un jour, vu que ce n'est pas dans 5 minutes. Et on va aller dans Jean 11. Jean 11, un des grands passages de Jean 11, c'est la résurrection de Lazare. Et ce passage est très très intéressant par rapport au thème qui nous intéresse. Je vous rappelle la question des disciples. Comment, Seigneur, peux-tu augmenter notre foi? Et puis Jésus répond, ben, jeûne et prière. Okay. Et puis Jésus leur répond, ben, si vous avez la foi comme un grain de zenvé, vous déplacerez les montagnes, vous diriez à ce figuier, déplace-toi. Donc moi, j'imagine les disciples se tester sur un figuier. Figuier, va dans la mer! Et le figuier ne bouge pas. Il dit, ben, ma foi... J'ai essayé de dire à un arbre, déplace-toi, ça n'a pas marché. Donc ma foi doit être hyper petite, quoi. Ben oui, si je vous ai dit, si vous aviez une petite foi, vous pourrez commander aux arbres de se déplacer. Ben, testez votre foi, quoi. Allez en forêt, déplacez les arbres. Moi, ça n'a pas marché. Ma foi est encore plus petite que ça, quoi. Il n'y a pas de foi. Je ne peux pas le faire. Et c'est normal. Jésus avait parlé de la mort de Lazare. Mais les disciples crurent qu'il parlait de son assoupissement dans le sommeil. Ce que vous allez faire cet après-midi, peut-être. Jésus leur dit alors ouvertement, vous n'avez rien compris, Lazare est mort. Ça, au moins, c'est clair. Bon. Et la phrase suivante. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Si on lit un peu vite, mes disciples, Lazare est mort. C'est un peu de votre faute, hein, si je n'étais pas là pour le guérir. Hein. À cause de vous. Attends, Jésus, c'est un peu gros, quoi. C'est à cause de vous que je n'étais pas là pour le guérir. Comment? J'ai pas compris. Ouais. Non seulement il leur envoie un scud en pleine figure en les accusant, attends, Jésus, c'est toi qui connais le planning, hein, c'est toi qui connais la tournée qu'on est en train de faire. Tu es censé maîtriser les circonstances, tu es censé maîtriser les temps. On a vu ça, hein, que la foi, c'est cette confiance-là. Tu es censé prendre soin de Lazare, c'est quand même ton pote. Et là, tu viens de dire que c'est de notre faute. Et en plus, comme Albert le souligne, tu as ton sourire narquois sur le visage, là, tu rigoles, quoi. Tu te réjouis. Mais de quoi est-ce que Jésus se réjouit? De ce qui va venir après. Et il dit, allons vers lui. Verset 21. Marthe, sœur de Lazare, dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus aurait pu dire, c'est à cause des disciples si je n'étais pas ici. Mais nous, on voit le à cause d'eux comme une culpabilité. On verra que c'est tout à fait autre chose. Cependant, et Marthe continue ainsi, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus répond, ton frère sera ressuscité. Et là, on voit une assurance de Marthe. Je continue de ne pas douter de toi. Tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te l'accorder. Simplement, arrivons au verset 39. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, tu vas ouvrir la pierre, mais ils sont déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là. Et Jésus va lui répéter, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils enlèvent donc la pierre de l'endroit où le mort était déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Vous remarquez qu'il prend les termes de Marthe. Tout ce que Dieu te demandera, Dieu t'écoute. Et Jésus dit, Père, je te remercie, tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause d'eux, le même à cause des disciples. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir cela, dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort, et le mort sortit. Vivant. Parce qu'il aurait pu sortir mort. S'il est capable de déplacer un arbre, il est capable de déplacer un mort. Non, il est sorti vivant. Et ce passage m'enseigne beaucoup. On sait qu'à ce moment-là, Jésus va pleurer et que les pharisiens autour vont dire « Voyez comme il l'aimait !» Mais je crois que Jésus pleure, non pas sur Lazare, parce qu'il sait que Lazare va ressusciter. Il le dit « Tu m'as déjà écouté !» Et il l'a affirmé hein, « Marthe, ton frère va ressusciter, il n'y a pas de souci là-dessus !» Il ne pleure pas parce qu'il va ressusciter. Il pleure à cause des disciples, à cause de la foule qui est autour. Parce que cette foule, elle est dans la situation la pire qui puisse exister. Le manque de foi. Et Jésus pleure parce que autour de lui, les gens sont en train d'être perdus parce qu'ils sont en train de ne plus avoir d'espérance ni d'espoir parce qu'il y a un manque de foi. Et Jésus dit, je vais prier à haute voix. Et j'ai pris les disciples avec moi et on a attendu la mort de Lazare à cause des disciples parce que justement ils me demandaient « Seigneur, augmente-nous notre foi !» Et la réponse de Jésus, regardez ce que je vais faire à la mort de Lazare. Je vais vous montrer que rien n'est impossible à celui qui croit. Et Jésus va dire « Père, je sais que tu m'écoutes toujours. » Je sais que Lazare est ressuscité. Et il dit ça à haute voix, non pas pour lui-même, non pas pour que le miracle ait lieu. Nous, on croit qu'on prie et le miracle a lieu. Non. Jésus prie pour que d'autres soient convaincus que Dieu est agissant. Et que ce n'est pas n'importe qui agit. C'est Dieu le Père. Et c'était tellement important qu'il soit clair à ce moment-là. Parce que souvenez-vous des remarques qui viendront malgré le fait que Jésus est clair. C'est par Belzébuth qu'il chasse les démons, c'est par les puissances des ténèbres qu'il ressuscite les morts. Et Jésus va dire, non, c'est le Père. Père, je prie pour eux, qu'ils entendent que c'est à toi que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à n'importe qui. Je m'adresse à un Dieu qui est puissant et qui est vivant et qui m'écoute toujours. Le but de Jésus, c'est que ces gens qui n'ont pas la foi grandissent dans la foi. Paul va dire que la foi ne provient pas des persuasions du langage, mais d'une démonstration de la puissance de Dieu. Simplement, nous ne nous méprenons pas. Et c'est là où on va revenir à ce qui était là. Vous vous souvenez de ce qui était là? Communion avec Dieu et jeûne. Qu'est-ce que la foi? Et surtout dans l'histoire là. Et l'histoire précédente où les disciples n'ont pas pu justement chasser le démon. À qui tout a été possible? Aux disciples? Non. Mais à Jésus. Qui a ressuscité Lazare? La foule et les disciples? Qui était dans l'incrédulité? Justement, la foule et les disciples. Et la résurrection de Lazare vient par Jésus. Ta foi ne t'appartient pas, comme mon portable m'appartient. Ta foi, c'est un don de Dieu comme mes poumons sont un don que Dieu a créé en moi. Mais quelque part, ça aussi, ça ne t'appartient pas. Ta foi, c'est comme ton pays. Tu ne le possèdes pas, mais tu lui appartiens. Le royaume de Dieu, tu ne le possèdes pas, tu lui appartiens. Et je vais aller un peu plus loin. Ta foi, ce n'est pas ta foi. C'est la foi de Jésus en toi. Ta foi, ce n'est pas ta foi. C'est la foi de Jésus en toi. Parce que tu as beau avoir toute la foi que tu veux. Paul le dit dans l'Épître aux Corinthiens. Si j'avais la foi pour soulever les montagnes, tiens, lui, il y arriverait. S'il me manque l'amour, c'est du vent, c'est rien, c'est vide. Ça ne me sauvera pas. Il va dire plus loin, si Jésus n'est pas ressuscité des morts, votre foi est vaine. Parce que si je considère que j'ai la foi, je suis dans la foi, et ma foi va grandir et prendre une dimension forte, ben je suis désolé, votre foi, c'est un produit de vous-même, c'est même un biais cognitif religieux. Je pèse mes mots. C'est une auto-persuasion de méthode Coué bas de gamme. De toute façon, la méthode Coué, c'est toujours bas de gamme, excusez-moi du pléonasme. Mais ce n'est pas la foi qui sauve. Parce que la seule foi qui sauve, la seule foi qui produit des miracles, la seule foi pour laquelle rien n'est impossible, ce n'est pas la foi humaine, ce n'est pas votre foi, c'est la foi de Jésus en vous. Rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas marqué « rien n'est impossible aux chrétiens ». Voir, plus j'avance dans la foi, plus je me rends compte que tout est impossible. Même prier peut devenir impossible. Et Paul le dit dans Romains, quand vous ne savez pas comment prier, quand vous êtes confronté à l'impossibilité de prier, le Saint-Esprit vient à votre aide et prie pour vous. Et finalement, vous savez quoi? Laissez Dieu prier en vous. Soyez les canaux de la prière de Dieu. Laissez la foi de Dieu s'exprimer en vous. Parce que ça, c'est la vraie foi. Il n'y aura pas de foi plus grande que celle-là. Quand Jésus dit qu'il est impossible à un riche d'entrer par le trou d'une aiguille, c'est vraiment impossible. À l'homme, c'est impossible. Et il rajoute, mais tout est possible à celui qui croit à Dieu. Et qui est-ce qui croit dans l'histoire de Lazare? Qui est-ce qui croit dans l'histoire de celui qui a la main sèche? Qui est-ce qui croit dans celui qui est très démoniaque pour la guérison? Celui qui croit vraiment, c'est Jésus. Et tout ce que tu peux hériter de ce que tu crois de la part de Dieu, c'est ni plus ni moins des miettes qui tombent sur toi de la foi de Jésus. Et ça me rassure. Parce que finalement, garder la foi, c'est garder ma relation avec Dieu et faire passer Dieu en premier, même par rapport à mes besoins. Et c'est peut-être dans ce sens-là qu'il est important de comprendre cette phrase. Il faut que je diminue pour que lui prenne toute la place, pour que lui grandisse. Et peut-être c'est bien si ma foi est petite. Parce que je ne vais pas avoir confiance en ma foi, mais je vais avoir confiance en celui qui me donne la foi. Et il y a une nuance qui n'est pas moindre. Parce que si votre confiance est dans la foi, vous n'avez plus besoin de Jésus. Et votre foi est vaine. Mais j'ai besoin d'un Jésus vivant. De ce Jésus qui me garde sur le sentier de la foi, qui me garde dans une attitude de foi, qui me garde dans une compréhension de foi. Souvenez du jeûne. Je fais passer Dieu avant mes besoins. C'est exactement que lui augmente, que lui grandisse dans ma vie, dans mon caractère, dans mon âme, et que moi je diminue. Et si mes prétentions chrétiennes d'avoir la foi diminuent, ben c'est peut-être tant mieux. Parce qu'au moins tous les regards se tournent vers celui qui donne la foi, et mon regard en particulier. Et lorsque j'agis, les gens ne sont plus censés voir un Emmanuel Girardin, mais un gars de peu de foi, mais dont le Dieu, auquel j'appartiens, a une grande foi. Et ce Dieu, dans sa grâce, a choisi de me faire confiance pour porter sa parole. Preuve qu'il est complètement fou, humainement. Parce que je ne suis pas qualifié pour ça. Mais lui, il l'est. Et c'est à lui que revient toute la gloire. Et Dieu a choisi d'utiliser les choses faibles du monde, les choses folles du monde, pour confondre les forts et les intelligents. L'évangile est scandaleux. L'évangile est une folie. Alors, laissez la place à Jésus. Ne vous appuyez pas sur votre propre foi, mais laissez Dieu prendre toute la place et laissez Dieu aussi changer à cause de cela vos sujets de prière. Je me suis aperçu d'une chose, ça fait plusieurs mois que je traverse ça, mois, années, et plus je traverse, moins je prie pour moi. Et plus je suis en recherche de « Seigneur, de quoi est-ce que tu as besoin, toi, Seigneur, aujourd'hui ?» C'est bizarre comme question. Hein? Avant d'entrer dans Jérusalem, Jésus a dit à ses disciples, allez chercher un âne. Et si on vous demande pourquoi vous embarquez cet âne qui ne vous appartient pas, dites, le Seigneur en a besoin. Et c'est peut-être ça, de prier de façon juste. Seigneur, moi j'ai des besoins. Attitude jeûne. Prière, jeûne. Jeûne, je ne fais pas passer mes besoins avant. Après tout, j'ai la foi que Dieu va s'occuper de mes besoins et que Dieu sait les situations que je traverse, etc. Mais Seigneur, toi, pourquoi est-ce que tu aimerais qu'on prie? Qu'est-ce qui vibre sur ton cœur en ce moment? De quoi, Seigneur, tu as besoin? Personnellement, Jésus m'a répondu, j'ai besoin d'un âne sur lequel monter dessus pour rentrer dans Jérusalem. Est-ce que tu veux être l'âne de Jésus? C'est notre place juste, hein? Porter le roi au monde pour qu'il fasse son entrée. Et qu'importe si moi je suis abaissé en rang d'âne, du moment où cet âne porte Jésus. Que Dieu vous bénisse, je vais arrêter là. J'avais juste une parole. Ouais, non, je vais arrêter là. Oui, j'ai une parole pour vous, justement par rapport à cette notion de besoin. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Tu te demandes à quoi tu sers. Est-ce que tu es encore utile pour Dieu dans cette vie? Les personnes qui étaient proches de moi avaient cette question-là aussi. Et la question n'est pas à quoi est-ce que je sers. La question c'est, Jésus se sert encore de toi, même dans des choses que tu ne vois pas. Parce que le témoignage de ta persévérance, même quand tu te sens inutile, est plus profond que tous tes succès et toutes tes réussites. Que Dieu vous encourage.